RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Pascal Hérault de l'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, le Togo, où les villes de Lomé et de Sokodé ont connu 3 jours de manifestations pacifiques. Après 3 mois de crise politique, pour faire baisser la tension, le pouvoir envisage de libérer 42 manifestants et d'organiser un dialogue. Reste à trouver un médiateur approuvé par les deux camps. RDC, où la CENI vient de publier le calendrier électoral, exit l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait une élection fin décembre 2017. C'est le 23 décembre 2018 que les Congolais devraient élire le successeur de Joseph Kabila. Et pour finir, le Libéria, où le second tour de la présidentielle est conditionné par la décision de la Cour suprême suite à la plainte pour fraude déposée par le candidat arrivé en troisième position, Charles Brumskine. Au Togo, les manifestations se poursuivent, mais cette fois dans le calme. Depuis 3 mois, l'opposition occupe la rue pour réclamer des réformes constitutionnelles et le départ de Faure Gnassingbé. Le reportage de Frédéric Schneider.
Sokodé, le cœur de la protestation. Tôt le matin, les manifestants sortent, mais ils n'iront pas loin. Selon plusieurs témoignages, des éléments du corps d'élite de l'armée, en treillis noir et cagoule, ont pourchassé et tabassé des manifestants. À Lomé, la capitale, même colère. Mais ici, les forces de sécurité ne chargent pas, la foule ne gronde pas moins. Malgré tout, la marche se déroule dans le calme. Le mot d'ordre est toujours le même.
Le Togo, c'est pas un royaume. 50 ans de pouvoir, ça suffit. Moi, on ne veut plus être pouvoir. Mon fils peut être pouvoir. Moi-même, je peux être président. Donc, je suis sorti. Si je vais mourir, je vais mourir pour mon pays. Je me bats pour ma nation. Je sors ma vie sans armes. 50 ans de pouvoir, ça suffit.
Le président Faure Gnassingbé a tenté de calmer l'opposition en annonçant une série de mesures. Le pouvoir promet la libération de 42 manifestants et un dialogue avec l'ensemble de la classe politique.
On a déjà traversé 25 dialogues. Qui doit avoir dialogue? Oui, ça va être celui-là qui va porter sur comment libérer définitivement notre pays du joug de la dictature cinquantenaire.
Mais toute l'opposition ne semble pas du même avis. Les partisans de Jean-Pierre Fabre, chef officiel de l'opposition, sont sur une ligne moins radicale. Ils se disent à nouveau ouverts au dialogue.
Jean-Baptiste Placa, avec la libération prochaine de 42 manifestants et la proposition d'un dialogue, le gouvernement joue la carte de l'apaisement, mais s'achemine-t-on vers une fin de crise ?
Non, d'abord je ne sais pas en quoi libérer des gens qu'on a emprisonné de manière injuste est une concession de quelque nature que ce soit. La vérité est que la violence continue et les milices continuent d'agir dans ce pays, même si le pouvoir veut donner l'apparence d'une approche plus posée des choses. Le problème de fond demeure le même. Quelqu'un a parlé de dictature cinquantenaire. Comment est-ce qu'on en finit? Et le problème, c'est que Faure Gnassingbé ne veut pas partir. Il ne partira pas de lui-même. Quels que soient les dialogues proposés, il y a toujours un piège. Et il faut que les uns et les autres soient vigilants. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle propension à vouloir tricher, piéger les autres, parce que on ne veut pas franchement les mêmes choses pour le pays. On veut rester au pouvoir, et quand on veut rester au pouvoir, en dépit de tout ce que ressent la population, il y a toujours ce genre de comportement, et on ne parle pas suffisamment de tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme en sous-main, dirons-nous, de tout cela. Et si ça continue, ça risque de constituer un dossier aussi pour la Cour pénale internationale.
L'humain gloire que Mayou, il y a quand même une nouvelle donne, c'est qu'au sein du clan Yadema, certains appellent Faure Gnassingbé à clarifier sa position.
Je crois que tout le monde a besoin que le président Faure Gnassingbé exprime une position très claire par rapport à ce que sera la suite de la vie politique. Est-ce qu'il sera candidat en 2020? Est-ce qu'il ne le sera pas? Est-ce qu'on va devoir subir la dynastie de Gnassingbé pendant toute cette période-là? Je pense que c'est déjà dans son camp que la question se pose avec acuité. Mais par-dessus tout, je crois que nous sommes dans un pays où les rivalités dynastiques ont atteint leur summum, même si ça a un peu baissé avec Gilles-Christ Olympio qui a rejoint la majorité, où cette lutte dynastique reste très prégnante. Et l'opposition, visiblement, ne tire pas toutes les leçons du passé. La constitution de 1992, dont on demande l'application aujourd'hui, elle n'a pas pu être appliquée parce que l'opposition n'avait pas été suffisamment conséquente dans ses demandes non plus. C'est-à-dire qu'il fallait désigner un premier ministre, il fallait ensuite aller aux élections législatives. Elle a laissé un boulevard au président Gnassingbé qui lui a permis de gagner les élections et donc de remodifier la constitution derrière. Après, il y a eu le président Faure qui a aussi engagé un dialogue avec l'opposition, mais il s'en est tiré avec les mêmes recettes. C'est-à-dire que l'opposition a fait un blocus, et quand on fait la politique de la chaise vide, généralement c'est en sa propre défaveur. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une crise qui semble sans issue, mais les Togolais sont fatigués, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, et malheureusement dans les deux camps, on est dans un dialogue de sourds. Il est temps qu'on engage un vrai dialogue entre la classe politique dirigeante actuelle et l'opposition également.
Pascal Hérault, dans le camp de l'opposition, qui aujourd'hui incarne l'opposition? Est-ce Jean-Pierre Fabre ou Tikpi Achadam?
C'est Tikpi Achadam qui a réveillé l'opposition. L'opposition était plus ou moins endormie ces derniers temps. Et puis ce leader a surgi, il donne le tempo, c'est lui qui a imposé les premières manifestations. L'opposition a essayé de récupérer le mouvement, elle n'a pas réussi, c'est toujours lui qui donne les mots d'ordre. Il est très ferme, retour à la constitution de 92, les deux mandats et départ du président. Et c'est là-dessus que le pouvoir joue. Il va jouer sur les divisions au sein de l'opposition, entre Jean-Pierre Fabre notamment, on en a parlé, qui serait peut-être plus enclin à aller au dialogue. Lui, il a son poste de chef de file. Et puis le pouvoir est très intelligent aussi. Quand il dit, voilà, moi je suis prêt à remettre en cause les deux mandats, mais il faut mettre aussi une limitation au mandat des députés. Il joue avec l'opposition. Il gagne du temps. Et en l'absence d'une plateforme commune avec des revendications très claires et des gens qui sont sur une même ligne, c'est le pouvoir qui risque de gagner le bras de fer. Donc il est maître du jeu pour le moment encore.
Jean-Baptiste Placard, on n'a pas beaucoup entendu l'Union africaine sur la crise togolaise.
Oui, est-ce qu'on entend souvent l'Union africaine? Bon, il y a un président en exercice qui essaie de jouer les médiateurs à sa manière. Le problème, c'est que ces gens n'ont jamais le courage de dire à leur père les vérités que ceux-ci doivent entendre si on veut éviter les crises. En réalité, l'Afrique de l'Ouest est une zone en dehors de la menace djihadiste, est une zone relativement calme. Et si le Togo basculait dans la violence, ça créerait des situations assez difficiles pour l'économie et du Ghana et du Burkina et du Bénin. Et peut-être même au-delà. Donc, les dirigeants africains ont intérêt à dire à Faure Gnassingbé, bon, d'abord, nous sommes ensemble, il faut que nous nous ressemblions. Et vous êtes une singularité dans cette Afrique-là, ça ne peut pas continuer. C'est cela le message qu'on attend de l'Union africaine.
Et qui ne tient pas, malheureusement. En RDC, exit l'accord de la Saint-Sylvestre qui accordait à Joseph Kabila un an de plus après la fin officielle de son second et dernier quinquennat. Le calendrier arrêté par la CENI fixe désormais la date des différents scrutins présidentiels, provinciaux et législatifs au 23 décembre 2018. Le reportage d'Emmanuel Godard.
Le dimanche 23 décembre 2018. En un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial.
Une date comme un compromis. entre ce qui avait été décidé lors des accords de la Saint-Sylvestre, des élections avant décembre 2017, et la dernière annonce de la CENI qui disait ne pas pouvoir être prête avant avril 2019. Mais avec une telle date, le président Joseph Kabila se maintiendra au pouvoir jusqu'en janvier 2019, alors que son mandat a expiré le 20 décembre 2016. Inacceptable pour l'opposition.
Nous voulons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Je ne vois pas pourquoi on doit perdre notre temps sur une histoire qui n'a pas d'avenir.
Même son de cloche du côté de la société civile, qui ne comprend pas que la CENI prenne cette décision sans avoir consulté tous les acteurs concernés.
La publication de ce calendrier par la CENI est un mélange de la provocation, un déni de la réalité politique de la République, mais en même temps un défi lancé à la démocratie.
La République démocratique du Congo n'a pas connu d'alternance pacifique depuis son indépendance en juin 1960. La Lucha a d'ores et déjà appelé à la désobéissance civile et à des manifestations partout dans le pays.
Lumangoir Komayou, l'opposition congolaise avait espéré que la venue à Kinshasa de Nikale, la représentante de Washington à l'ONU, puisse contraindre Joseph Kabila à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'en a rien été. C'est donc un soutien inespéré pour Joseph Kabila.
Un soutien à minima, hein, parce que c'est vrai qu'on est passé quand même de 504 jours pour organiser l'élection à un peu moins, après le passage de Nikiale. Donc je pense que sa visite n'a pas été totalement inutile. Je ne sais pas quel argument elle a mis dans la balance pour faire réduire le délai de 504 jours. Mais une chose est certaine, c'est que là on a l'impression que ça pourrait finalement être tenu. Les délais restent un peu longs, mais c'est déjà une semi-victoire de pouvoir obtenir.
Une rallonge de plus d'un an pour Joseph Kabila, Pascal Héro.
Il joue depuis le départ la stratégie du glissement. On se rappelle qu'il avait organisé des concertations nationales, ce qui lui avait permis de mettre un gouvernement d'union nationale, enfin de cohésion sociale. Après, il y a eu le dialogue avec l'Union africaine par l'intermédiaire de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Et puis après, il y a eu le dialogue avec l'Église catholique, la CENCO. Et on est toujours dans le même schéma. Alors là, les États-Unis sont venus signifier la fin de la récréation, parce que c'est encore une grande puissance qui peut quand même agir dans la région et dire... Ce serait bien de tenir ces élections. Il est en train d'essayer de jouer sur les délais. Il y a plusieurs niveaux d'élections à organiser. Ce sera très difficile à mettre en place. Joseph Kabila va jouer sur le pourrissement, je pense, dans les prochains mois. Et je pense qu'il y aura encore des retards.
Jean-Baptiste Placal, l'opposition et la société civile parlent d'une transition. Est-ce possible ?
Je ne sais pas si c'est possible, mais ce qui est déconcertant, c'est que le pouvoir de Joseph Kabila s'évertue à vouloir en permanence tricher, grappiller quelques mois, quelques années de plus, au lieu de dire franchement qu'il voulait un troisième mandat. Comme il ne pouvait pas le faire, il met en place toutes sortes de stratagèmes pour prolonger sa présence au pouvoir, mais c'est-à-dire on est au pouvoir pour régler les problèmes d'un peuple, et les problèmes du peuple congolais ne sont pas réglés par celui-là. On a le sentiment qu'on est retombé dans l'ère Mobutu, des gens qui sont là pour eux-mêmes et qui essayent de s'imposer par toute forme d'abus. C'est assez triste le sort, le destin de ce peuple. Les élections difficiles à organiser, oui, bon. Mais quand on veut organiser les élections, on commence à les préparer le jour où on entre en fonction. On n'attend pas la veille de la fin de son mandat pour commencer à sortir ce genre d'arguments. Le peuple congolais n'est pas respecté par ces gens, pas plus qu'il ne l'était sous Mobutu, et c'est vraiment triste.
Lumangoir Komayou, quelle est la marge de l'opposition aujourd'hui ?
Elle est malheureusement très faible. On a vu tout à l'heure dans le sujet la Lucha. Aujourd'hui, les organisations de la société civile sont presque les seules à tenir un discours en cohérence avec les réalités, les souffrances et les a priori dont souffrent aujourd'hui les Congolais. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas un dirigeant congolais de l'opposition ou de la majorité tenir compte de ces souffrances qui ne sont pas imaginaires, qui sont réelles ? C'est ça qui est inquiétant.
On passe au Libéria, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 38,9% des suffrages. Georges Weah, avant de fêter sa victoire, devra attendre la décision de la Cour suprême. Il doit se prononcer sur les irrégularités dénoncées par Joseph Bocaï et Charles Brumskine. Le reportage de Frédéric Schneider.
Elle tente de calmer le jeu. Après 12 ans à la tête du pays, Hélène Johnson-Sirleaf s'apprête à passer la main dans la confusion. La présidente a rencontré des responsables de la Commission électorale nationale à son domicile avant le premier tour. Une rencontre vivement critiquée.
À présent, notre démocratie est attaquée. La réputation de notre pays est attaquée. Notre économie est sous pression. Nous, responsables politiques, devons faire mieux que ça.
Son vice-président, Joseph Bocaï, arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle, et Charles Brumskine, troisième, accuse Sirleaf d'interférer dans le processus électoral. À 78 ans, la première présidente du Libéria et d'Afrique s'enorgueillit d'avoir sorti le pays de la guerre civile. Elle ne veut pas ternir ce bilan à l'heure de sa succession. De son côté, Georges Weah, favori du scrutin, candidat du Congrès pour le changement démocratique, joue la carte de l'apaisement.
Le Libéria est ce que nous avons. Vous avez été calme, je dois vous remercier.
Depuis l'interruption de l'élection juste avant le deuxième tour, l'incertitude électorale excite les ambitions. Quatre candidats, dont Joseph Bocaï, ont décidé de s'unir contre la candidature de Georges Weah. Ils dénoncent des irrégularités. Les Libériens, suspendus au processus électoral, sont dans l'attente de la première alternance démocratique à la tête du Libéria depuis près de 30 ans.
Jean-Baptiste Placa, c'est la première fois qu'on entend un vice-président sortant dénoncer des irrégularités dans un scrutin. À quoi joue Hélène Johnson-Sirleaf ?
Non, elle ne joue à rien. La vérité est que certaines personnes veulent empêcher Georges Weah de devenir président dans ce pays. Et déjà, la première élection de Mme Sirleaf était problématique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a volé sa victoire à Georges Weah. Il ne faut pas que cela se reproduise. Si le peuple choisit quelqu'un, il faut lui céder le pouvoir. Et il faut qu'on passe aux élections, au second tour des élections. Même la Cour suprême qui intervient juste à la veille du second tour pour tout suspendre, sine die.
Une jurisprudence kényane, Pascal Héroux ?
Oui, une jurisprudence kényane. On ne sait pas encore ce que va faire la Cour suprême. Elle peut aller jusqu'à invalider les résultats du premier tour.
Et qui peuvent être reportés de 2 mois.
Voilà. L'équation est simple. Georges Weah est en tête. Il a 38% des voix. Il y a à peu près 8 ou 9% de ralliement des voix de Prince Johnson. Il arrive à 47 ou plus. On lui a retiré 50 000 voix. Il ne faut pas oublier lors du premier tour. Il est très proche de la victoire. Joseph Bocaï n'a aucun intérêt à aller rapidement aux élections. Donc il joue avec Charles Brumskine, l'avocat. Il espère aussi le ralliement d'Alexander Cummings et il a besoin de temps. Parce qu'il y a aussi une question d'argent dans ces élections. Plus ça va durer, plus ça va être difficile pour Georges Weah de maintenir ses troupes, alors que lui est encore au pouvoir. Il vient de faire 12 ans comme vice-président, il n'a qu'un intérêt, il veut rempiler. Et pour Hélène Johnson-Sirleaf, elle a plutôt intérêt, je crois, à continuer à soutenir discrètement Georges Weah, bien qu'elle ne puisse pas l'afficher officiellement, parce que je pense que Georges Weah lui laissera une place comme ambassadrice, comme personne ressource sur un certain nombre de sujets dans lesquels elle pourrait intervenir.
Un dernier commentaire, lui, Maguire Comayou, avant de conclure.
Une chose est certaine, c'est que le vice-président n'a pas une attitude très loyale vis-à-vis de la présidente. Et c'est ce qu'elle lui fait payer aujourd'hui. Il a eu une attitude très critique par rapport à son bilan. Et Mme Sirleaf ne l'a pas oublié. Donc, et une chose est certaine également, c'est que si à la fin de l'élection, Georges Weah ne l'emportait pas, avec le souvenir des deux premières élections où il a eu l'impression d'avoir été floué, je ne suis pas certain que le pays restera calme. Donc cet enjeu-là est également très important.
Ça sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, à Pascal Héroux de l'Opinion et Louis Magloire Comayou du Club de l'Information Africaine. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.